Bonjour et bienvenue à Tour de table, un balado bilingue consacré aux enjeux politiques, économiques et géopolitiques qui touchent le Québec, le Canada et le monde. Je m'appelle Frédéric Mérand, je suis professeur et directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal.
And I'm Jennifer Welsh, a professor of global governance and security at McGill University, where I direct the Center for International Peace and Security Studies.
C'est notre troisième épisode consacré à la guerre en Ukraine. Après avoir abordé les dynamiques propres au conflit avec Maria Popova de l'Université McGill et la dimension géopolitique avec Bruce Jones de la Brookings, nous recevons aujourd'hui Agathe Demaret pour analyser avec elle les implications économiques de cette guerre, notamment, et pas seulement, la question des sanctions. Dès le début du conflit, l'Europe et les États-Unis ont réagi avec vigueur à l'agression russe, sans intervenir militairement, mais en adoptant le plus important programme de sanctions de l'histoire. Ce programme de sanctions est allé en s'intensifiant et inclut aujourd'hui les hydrocarbures, la principale source de revenus de la Russie. Pourtant, un an après le début de la guerre, les effets de ce régime de sanctions sont mitigés. D'une part, la plupart des pays du monde, et notamment la Chine, n'ont pas suivi l'initiative occidentale. D'autre part, l'économie russe ne s'est pas effondrée comme prévu. Diplômée de Sciences Po à Paris et de l'Université Columbia, Agathe Demaret est la directrice de la prospective à l'Economist Intelligence Unit. Elle a travaillé au ministère français des Finances, à la DG Trésor, et elle est l'auteur de « Backfire, How Sanctions Reshape the World Against US Interests », paru chez Columbia University Press en 2022. Elle est donc la personne tout indiquée pour nous éclairer sur cette question. Bonjour Agathe, bienvenue à Tour de table.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors Agathe, vous faites partie des experts, des expertes qui estiment que les sanctions fonctionnent. En même temps, ça semble être une position de moins en moins consensuelle chez les observateurs. Pouvez-vous essayer de nous en convaincre du succès de ces sanctions?
Alors, je crois que pour essayer de vous convaincre du succès de ces sanctions, il va d'abord falloir définir les objectifs des sanctions, parce que sinon, c'est un petit peu comme se demander si un tournevis est efficace ou pas. Bon, pour tourner une vis, oui. Pour faire de la neurochirurgie, un petit peu moins. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion, justement, sur les objectifs des sanctions. On a eu des déclarations politiques visant à dire que les sanctions visaient un effondrement de l'économie russe. Ça, je crois que c'était pas possible. L'économie russe, c'est la 9e mondiale, donc on ne va pas avoir un effondrement à la vénézuélienne. Également, il y a eu des déclarations visant à laisser penser que les sanctions pouvaient entraîner un changement de régime. Ça non plus, on sait que ça ne marche pas. Donc, c'est totalement impossible. C'est exclu, en fait, du champ des possibles. Et enfin, le troisième non-objectif, je dirais, c'est le fait qu'on sait que les sanctions ne vont pas changer du jour au lendemain totalement le calcul de Vladimir Poutine en Ukraine. Donc je crois que c'est important d'être réaliste par rapport à ce que les sanctions ne peuvent pas faire. En revanche, ce que les sanctions peuvent faire, je dirais qu'elles peuvent faire trois choses. Et là, de ce point de vue, je crois qu'elles ont réussi. La première chose, c'est d'envoyer un signal diplomatique fort, tant à la Russie qu'à l'Ukraine. Donc un signal d'unité transatlantique dans le domaine des sanctions, puisque l'unité transatlantique sur les sanctions a été quasiment parfaite, alors qu'on a eu beaucoup de disputes entre les États-Unis et l'Europe sur les sanctions, par exemple vis-à-vis de l'Iran, lors du retrait américain de l'accord nucléaire en 2018. Là, sur la question russe, on a eu une forte unité et également un message de solidarité avec l'Ukraine. Donc de ce point de vue, pour moi, mission accomplie sur cet objectif. Le deuxième objectif, c'est de peser sur la capacité de la Russie à faire la guerre en Ukraine. Donc on en revient bien à l'idée, ça ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais ça va rendre les choses plus difficiles pour la Russie, financièrement, économiquement, technologiquement. L'économie russe était en récession l'an dernier, elle sera probablement, selon le consensus des économistes, en récession également cette année. Les comptes publics russes sont dans le rouge, donc on a vraiment cette idée que petit à petit, ça va devenir plus difficile de faire la guerre. Pas impossible, mais plus difficile, surtout en préservant en même temps la paix sociale. Et je mentionnais également l'angle technologique, puisque les sanctions restreignent la capacité de la Russie à accéder à des semi-conducteurs. Or, les missiles russes sont pleins de semi-conducteurs. Et donc, ça aussi, on a vraiment un effet technologique et militaire. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et enfin, le troisième, c'est un objectif de long terme, et on en vient justement à l'idée que les sanctions, c'est un outil de long terme, ça n'a pas des effets immédiats sur le court terme, du jour au lendemain. Mais à long terme, les sanctions depuis 2014 restreignent la capacité de la Russie, et surtout des entreprises russes du secteur énergétique, à avoir accès aux technologies occidentales, et en fait surtout américaines, pour développer des nouveaux champs gaziers dans l'Arctique. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'un certain nombre de champs russes d'hydrocarbures arrivent ce qu'on appelle à maturité. Leurs réserves s'épuisent, la Russie a besoin de construire des nouveaux champs, mais sans les technologies américaines, ça ne sera pas possible. Et donc, à long terme, il y a fort à parier que l'économie russe va perdre son statut de grande puissance énergétique mondiale. Donc voilà, selon en fait ces trois objectifs, si on a ces objectifs en tête, pour moi, les sanctions contre la Russie fonctionnent.
Moi, j'avoue que je suis convaincue. Je ne sais pas, Jennifer, si toi, tu es convaincue?
Oui, le premier objectif, c'est vraiment fait. Kamagata a dit, completely. It sent the signal that she outlines. The third one, around denying technology, particularly for the development of, you know, the Russian energy sector, I think is one that we don't see mentioned or discussed in this debate. And it may be that is because the analysts are focused in the way that Agathe suggested on these unrealistic objectives around regime change or those kind of timeless objectives of sanctions that have been discussed for decades.
Mais justement, je propose qu'on entre un petit peu dans la mécanique des sanctions parce que moi, je suis complètement convaincu par votre argument selon lequel on a parfois lancé le mauvais message sur l'objectif de ces sanctions qui n'a jamais été d'empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine. À l'évidence, il était trop tard, ni de convaincre la Russie de se retirer après quelques semaines. Donc, il y avait d'autres dynamiques, mais on a observé aussi une gradation des sanctions au cours des mois. Certaines de ces sanctions portent sur les personnes, donc par exemple proches du régime, d'autres sur les marchandises, alors ça peut être les microprocesseurs, mais aussi des produits de luxe. Certains sont exclus, comme par exemple nécessaires aux centrales nucléaires européennes, et des sanctions sur les actifs, notamment des Russes à l'étranger ou des institutions bancaires russes à l'étranger. On a parlé de SWIFT beaucoup au début pour les flux financiers. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment s'articulent tous ces différents types de sanctions ensemble et surtout lesquelles, à votre avis, fonctionnent le mieux?
Alors, je crois que c'est effectivement parfois compliqué d'y voir clair sur les sanctions et c'est très intéressant ce qu'a dit Jennifer sur le fait que, effectivement, certains analystes vont se concentrer sur la question du changement de régime, alors que peut-être que ce qui inquiète le plus le Kremlin, ce qui inquiète le plus le Kremlin de mon point de vue en tout cas, c'est vraiment ces restrictions sur le secteur énergétique. Donc comment est-ce que ces sanctions s'articulent ? Comme vous l'avez dit, on a d'abord des sanctions individuelles contre les proches du régime. Alors là, de mon point de vue, on est plutôt dans des choses symboliques, en fait, puisque ces personnes voient leurs actifs, par exemple dans l'Union européenne ou aux États-Unis ou au Canada, être gelés, et elles ne peuvent plus voyager dans les pays occidentaux. Clairement, on est plus sur des mesures symboliques qui visent à montrer à l'opinion publique qu'on fait quelque chose que sur des mesures qui vont avoir un impact sur l'économie russe. Après, on peut en fait faire une classification des mesures entre celles qui visent les stocks et celles qui visent les flux. Alors celles qui visent les stocks, une en particulier, c'est par exemple le fait d'avoir bloqué environ la moitié des réserves de la Banque centrale de Russie. J'insiste sur cette question de la moitié parce qu'on parle souvent du gel de la totalité des réserves, mais en fait, les pays occidentaux n'ont pu geler que la partie de ces réserves qui était détenue en monnaie occidentale. Et peut-être qu'on va discuter ça après, justement, sur comment est-ce que la Russie, quelque part, s'était préparée aux sanctions, comment est-ce qu'elle évite d'utiliser le dollar ou comment est-ce qu'elle développe des mécanismes financiers qui contournent les sanctions avec la Chine. Donc, on a, par exemple, sur les stocks, voilà, les sanctions sur les avoirs de la Banque centrale de Russie. Là, l'objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait de rendre plus difficile pour la Russie le fait de défendre sa monnaie et donc de lutter, par exemple, contre l'inflation, ce qui va avoir un impact, évidemment, sur les ménages russes. Après, on a les sanctions sur les flux, donc là, les flux commerciaux. Hein. Deux types de sanctions en particulier, ceux qui ont restreint les importations de la Russie, et c'était vraiment le focus, je dirais, en 2022. On n'a parfois pas bien compris ça, mais en 2022, les sanctions ont surtout restreint la capacité de la Russie à importer des produits occidentaux, donc par exemple dans le secteur des hautes technologies. Pourquoi est-ce qu'on ne visait pas en 2022 les exportations de la Russie ? Eh bien, à cause de l'Europe, puisque l'Europe, à l'époque, était encore dépendante du pétrole et du gaz russe. Mais en fait, Vladimir Poutine a un petit peu réglé la question, puisqu'il a décidé d'utiliser le gaz comme une arme pour infliger des dommages économiques à l'Europe. Et donc l'Union européenne, qui au début du conflit disait encore « Non, mais nous, un embargo sur le pétrole russe, ça va quand même être un petit peu compliqué, c'est 30% de nos importations de pétrole », ça a réglé la question. L'Union européenne a compris que Vladimir Poutine ne reculerait devant rien pour infliger des dommages économiques à l'Europe. Et on a eu les mesures de restriction des importations de pétrole russe qui ont été décidées par l'Union européenne. Et ça, ce sont des mesures sur les flux, donc les flux d'exportation. Et là, l'idée, en fait, c'est de restreindre les ressources financières de la Russie. On en revient au deuxième objectif des sanctions dont on discutait tout à l'heure. La question, c'est bien de peser sur ces ressources économiques et financières. Et si vous tapez le secteur énergétique sur les exportations d'énergie, vous êtes au cœur du réacteur parce que c'est environ la moitié des recettes fiscales et les deux tiers des exportations. Donc, on est vraiment quand même sur des choses assez significatives. Après, comme vous l'avez dit, la Russie parvient toujours à exporter son pétrole vers d'autres pays, mais il y a quand même des discounts. Le pétrole russe, le pétrole Oural est quand même vendu à un prix inférieur à celui du pétrole comme le Brent ou le WTI américain.
Ah, justement, donc une des choses qui se sont produites dans la dernière année, c'est le fait que certes les exportations d'hydrocarbures provenant de la Russie ont diminué, mais comme le prix de ces hydrocarbures a augmenté, ça a pu donner l'impression que les recettes pour la Russie avaient augmenté aussi. Et donc, vous soulignez l'importance d'y penser plus à long terme que sur quelques mois de manière à miner l'effort de guerre. Dans votre livre, Backfire, dont je recommande la lecture à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, vous dites que les sanctions ont presque toujours des conséquences non anticipées comme celle-là. Alors, il y a peut-être une certaine arrogance de la part des pays, notamment occidentaux, de croire qu'il suffit d'adopter un régime de sanctions pour que le monde se plie à cette volonté. Mais il y a aussi beaucoup d'autres, je pense, raisons pour lesquelles ces sanctions ont des conséquences non anticipées. Dans le cas de la guerre en Ukraine, à quelles autres conséquences non anticipées pouvons-nous penser?
Alors, je dirais que dans le cadre de la guerre en Ukraine va accélérer un phénomène de résistance aux sanctions. Je crois justement que les pays occidentaux, pour ce qui concerne les sanctions contre la Russie, cette fois-ci, parce que je raconte dans mon livre l'exemple de Rusal, des sanctions contre Rusal en 2018, qui avaient eu un impact monumental sur les marchés des matières premières et sur un certain nombre de pays du monde, en fait, des sanctions sur un producteur russe d'aluminium, Rusal, avait eu des conséquences en Irlande, en Australie, en Guyane, un petit peu partout sur toute la chaîne de production de l'aluminium. Je crois que cette fois-ci, les pays occidentaux et les États-Unis, et c'est assez exceptionnel, ont eu une volonté de prendre en compte les effets secondaires des sanctions pour éviter que la propagande russe essaye d'utiliser les sanctions pour alimenter l'idée que les sanctions alimentent l'insécurité alimentaire, l'insécurité énergétique, etc. La propagande russe le fait quand même, elle utilise les sanctions pour surfer sur le ressentiment dans les pays africains à l'égard des anciennes puissances coloniales. Mais il y a eu une prise en compte de cette idée. Cependant, je crois que les sanctions contre la Russie et le conflit en Ukraine en général va accélérer un phénomène que j'appelle le phénomène de résistance aux sanctions. En fait, c'est un petit peu comme les antibiotiques. C'est-à-dire que si on utilise beaucoup les sanctions, eh bien, c'est comme si on utilise beaucoup les antibiotiques, on a des résistances. Et comme les sanctions ciblent, en fait, dans le côté mécanique et technique, les flux financiers, c'est-à-dire que quand on dit, par exemple, on ne peut plus importer de pétrole russe, ce que ça veut dire, c'est que les banques ne peuvent plus faire des transactions liées à l'importation de pétrole russe. Eh bien, on a un mouvement de résistance aux sanctions qui a lieu dans le domaine financier avec l'émergence de mécanismes visant à vacciner des économies contre les sanctions. Et à mon sens, ce mouvement est dangereux parce qu'il pourrait rendre les sanctions totalement inefficaces et donc priver les diplomaties occidentales d'un levier contre la Russie, l'Iran, le Venezuela. Et également, il donne à des groupes illicites, par exemple des groupes impliqués dans la prolifération nucléaire, accès à des circuits financiers alternatifs. Quels sont ces circuits financiers alternatifs? Alors, la dédollarisation, c'est un premier outil, mais c'est un outil qui a ses limites. Hein. Si vous continuez, par exemple, à utiliser SWIFT, on a beaucoup parlé de SWIFT, comme vous l'avez mentionné, les sanctions auront un effet sur vous. Et donc, depuis plusieurs années, la Chine, mais aussi la Russie, développent des alternatives à SWIFT. L'alternative chinoise s'appelle SIPS. C'est beaucoup plus petit que SWIFT, 100 fois plus petit à peu près en termes de volume de transactions quotidien. Il y a 1400 banques dans le monde qui sont reliées à ce système, et donc ça donne à la Chine ou à la Russie un plan B, si elles sont coupées de SWIFT du jour au lendemain. Et l'autre mécanisme, qui à mon sens est très intéressant, c'est les monnaies digitales de banques centrales. Donc là aussi, la Chine mène la danse. On a un yuan chinois électronique qui est déjà utilisé par plus de 300 millions de Chinois. Et contre ce type de devise électronique, les sanctions ne peuvent absolument rien. Et donc, à mon sens, la guerre en Ukraine va accélérer tout ce phénomène avec la Russie qui va mettre les bouchées doubles pour avoir des mécanismes alternatifs, mais également la Chine, rejointe par l'Iran, etc., etc.
Le métaphore vacciner, ça c'est formidable. Parce que ça c'est le chose qu'on voit maintenant.
En fait, je crois que l'idée d'utiliser la métaphore de la vaccination contre les sanctions est intéressante aussi parce que l'idée n'est pas qu'on contourne les sanctions. L'idée est bien qu'on se vaccine de façon préventive pour ne pas être touché du tout par les sanctions quand elles seront imposées. Donc c'est l'idée d'un vaccin qui prévient même l'infection, quelque part, si on fait un parallèle entre les sanctions et la médecine. Donc ça, je crois que c'est une idée importante parce qu'on parle beaucoup du contournement de sanctions, mais pour moi, l'objectif de pays comme la Chine, la Russie et l'Iran, c'est bien de se prémunir, de prévenir, en fait, les effets des sanctions avant même qu'ils apparaissent.
Agathe, je veux retourner aux mesures micro contre the oligarchs or individuals just for a moment, because in other fields where we look at the effects of sanctions, the individual ones, you talked about them as being symbolic as part of that first objective. We see them used with the expectation that they're going to change particular behaviors. So for years, I've been studying sanctions in situations of atrocity crimes or human rights. And the idea there is that if at the right time, you impose individual sanctions, you actually create very specific incentives or disincentives for individuals. But, you know, listening to your analysis of that first category, those micro sanctions, it sounds like in this context, because the actions that those individuals could theoretically take are not very specific or not always within their control, that individualized sanctions in this case have limited utility. So it's more your second, your second objective, let's aim to decrease the capacity of the Russian state to wage war. And then, you know, thirdly, let's really hone in on the structural elements of their economy, particularly the energy sector.
Oui, absolument. En fait, les sanctions contre les oligarques russes ont évidemment des effets sur eux. Et en fait, l'idée, mais c'est une idée de long terme sur la Russie, et je ne suis pas entièrement convaincue par cette idée, l'idée, ça serait de créer des dissensions, de créer des tensions au Kremlin ou parmi le premier cercle de Vladimir Poutine avec des oligarques qui diraient ah « bah, vous voyez, monsieur le président Poutine, on est sous sanctions, ça ne nous arrange pas franchement, ils ont gelé nos avoirs ». Tout cela ne nous arrange pas du tout et ça serait bien de changer de politique. Honnêtement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour un certain nombre de raisons. La première, c'est la propagande russe. Je crois sincèrement qu'un certain nombre de décideurs russes de haut niveau sont persuadés qu'ils sont en guerre contre l'Occident et que c'est une guerre existentielle dans leur esprit. C'est complètement tordu, c'est faux, mais je crois qu'ils en sont convaincus et que les médias russes sont tellement verrouillés qu'ils entendent cette propagande à longueur de journée. Et donc, ils savent qu'ils ne seraient pas les bienvenus en Occident. Ils savent que leur seule planche de salut, c'est la Russie. Et donc, quelque part, le tout pour le tout, pour eux, ils n'ont qu'une seule possibilité, vraiment, c'est de soutenir le régime de Vladimir Poutine et ce qui se passe. Et donc, je suis assez sceptique quant au fait que ces sanctions auront un impact sur le fait de pouvoir créer des tensions au sein du régime russe. Ça, c'est la première chose. Et après, pour ce qui concerne la capacité de la Russie à financer la guerre en Ukraine, là, je ne crois pas que les sanctions contre les oligarques vont avoir un impact. Donc pour moi, peut-être qu'on a un impact micro, enfin c'est sûr d'ailleurs, on a un impact micro sur la richesse d'un certain nombre de personnes, mais quand on regarde la big picture, et je peux me tromper, je ne suis pas certaine que ces sanctions auront un effet sur l'un des objectifs qu'on a énoncés, notamment pour ce qui concerne la capacité de la Russie à faire la guerre en Ukraine.
Interesting. And it's going to be fascinating to think about the implications of what you're saying for the broader study of sanctions in these other contexts. I want to come back to something else from your book when you talk about an episode when the current U.S. Secretary of State, Antony Blinken, wrote himself a book on the sanctions imposed by the Reagan administration in the 1980s and their impact on America's allies in Europe, So again, coming back to Frederick's question about the consequences of sanctions, has the U.S. learned from these experiences, particularly with respect to transatlantic unity?
Alors, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que quand les États-Unis imposent des sanctions unilatérales de leur côté, ça a des effets secondaires massifs sur la relation transatlantique, ça alimente beaucoup de disputes diplomatiques, notamment lorsque ces sanctions ont ce qu'on appelle un composant secondaire. Alors, il y a beaucoup de confusion autour des sanctions secondaires. Les États-Unis sont le seul pays au monde à imposer ce qu'on appelle des sanctions secondaires, et quand ils le font, et actuellement ils le font quasiment uniquement contre l'Iran, en fait, pour ce qui concerne la Russie, il n'y a pas encore de sanctions secondaires, sauf sur le secteur militaire russe, ils disent à toutes les entreprises du monde, écoutez, si vous voulez faire du business en Iran, ça ne nous pose pas de problème, mais par contre, vous devez faire une croix sur vos opérations aux États-Unis, et sur le dollar américain, et sur les circuits financiers américains. Donc quand c'est la première économie du monde qui dit ça, c'est pas vraiment un choix. Et en gardant par ailleurs en tête le fait que des marchés comme celui de l'Iran ou de la Russie aujourd'hui ne sont pas particulièrement attractifs. Donc il y a eu énormément de tensions entre les États-Unis et l'Europe autour de ces sanctions secondaires, de ces sanctions qu'on peut également appeler extraterritoriales, au cours de ces dernières années. Et je retiens dans mon livre, trois épisodes en particulier. Le premier, celui que vous avez mentionné, effectivement la question du gazoduc qui devait relier, qui relie en fait toujours, puisqu'il a été construit, l'Union soviétique à l'Europe. Et en fait, les États-Unis à l'époque, c'était dans les années 80, avaient tenté d'empêcher la construction de ce gazoduc par tous les moyens possibles et imaginables. Ils avaient imposé des sanctions contre les entreprises européennes qui allaient être impliquées dans sa construction. Ces sanctions étaient même rétroactives, mais en fait, le gazoduc a été construit, l'Union européenne a dit « on va tenir bon, on veut construire ce gazoduc, ce n'est pas aux États-Unis de nous donner des leçons quant à un gazoduc qu'on a envie de construire ». Et environ 40 ans plus tard, oui c'est ça, oui. Dans les années 2020, Nord Stream 2. En fait ça s'est répété, l'histoire s'est exactement répétée et c'est ce que je raconte dans le livre. Les États-Unis ont à nouveau essayé d'empêcher la construction d'un gazoduc qui devait relier, et là je parle au passé, puisque finalement gazoduc Nord Stream 2 a été totalement abandonné, la Russie directement à l'Allemagne. Alors effectivement, rétrospectivement, c'était pas une riche idée hein, de construire un gazoduc entre la Russie et l'Allemagne et d'augmenter les importations de gaz russe pour l'Europe. Mais en fait, les États-Unis, là aussi, n'ont pas réussi à empêcher la construction du gazoduc. Il y a eu une réponse européenne très forte. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que même au sein de l'Europe, il y avait les pro-Nord Stream 2 et les anti-Nord Stream 2. Et chaque camp avait des bonnes raisons d'être pour ou contre ce projet. Il y avait quand même un certain nombre de personnes qui disaient « Bon, il y a eu la Crimée en 2014, est-ce qu'on fait vraiment une bonne opération en important plus de gaz russe ?» Mais là où les deux camps se rejoignaient, c'est que les deux camps disaient « Les États-Unis vont trop loin en essayant d'imposer des sanctions sur ce gazoduc, et si l'Union européenne décide de le construire, ce n'est pas aux États-Unis de nous donner des leçons. » Donc ça, ça a été un second exemple. Et en fait, le gazoduc a été abandonné uniquement lorsque l'Europe l'a décidé, c'est-à-dire au début de la guerre en Ukraine, après le 24 février 2022, l'Allemagne a dit « c'est fini, on ne peut pas le faire ». Mais ce n'était pas une décision qui a été prise sous pression américaine. C'est l'Allemagne qui a dit « on ne le fera pas », alors qu'il y avait eu des années de pression américaine. Et enfin, le troisième exemple que je mentionne aussi dans le livre, c'est l'exemple de ce qui s'est passé pour les entreprises européennes après le retrait américain de l'accord nucléaire iranien, donc en 2018. Et là, les entreprises européennes se sont retrouvées dans une situation vraiment étrange, puisque l'Union européenne était encore dans l'accord sur le nucléaire iranien. Donc, légalement, ces entreprises pouvaient rester à Téhéran, mais à cause des sanctions secondaires américaines, ces entreprises européennes ont dû quitter le marché iranien, puisque sinon, elles tombaient sous le coup de ces sanctions secondaires. Et ça, l'Union européenne également a essayé de faire pression sur Washington. Alors, c'était l'époque Trump, ce qui était également un petit peu particulier. Mais l'Union européenne a fait pression sur Washington pour essayer d'expliquer que les intérêts économiques européens étaient importants et qu'il y avait eu des investissements d'entreprises européennes en Iran. Je citais le cas de Total, un groupe énergétique français qui avait investi des milliards en Iran. Et les États-Unis n'ont pas voulu faire d'exception et ont dit aux entreprises européennes « vous pouvez rester en Iran hein. ». Mais à ce moment-là, c'est fini les États-Unis. Donc sans surprise, les entreprises européennes se sont retirées du marché iranien. Et ça, ça a vraiment alimenté des tensions transatlantiques. Et mon point de vue, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que, à la fin, pour moi, ces tensions ne bénéficient qu'aux pays sous sanctions. Je suis à peu près certaine qu'à chaque fois qu'il y avait des tensions autour de Nord Stream 2, Vladimir Poutine était ravi puisque les tensions dans le partenariat transatlantique ne bénéficient qu'aux pays sous sanctions, et donc pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied.
Incredible vignettes about sanctions, diplomacy and transatlantic rivalry. And one wonders if we're in a different era given the last year, but it's fascinating to have that Nord Stream case revisited. I just want to take you in my last question, Agathe, to China, because we talked about this last session with Bruce Jones, and it's always difficult to speculate about what China will do next. But on this question about supporting Russia with military equipment, how likely do you think it would be, if that happened, that the US and the West would adopt sanctions?
Alors, en fait, les États-Unis ont déjà des sanctions secondaires sur le secteur militaire russe. Donc, ils ont déjà l'arsenal juridique et il y a déjà eu des entreprises chinoises qui sont tombées sous le coup de ces sanctions secondaires pour avoir fait des affaires avec le secteur militaire russe. Donc, c'est, à mon sens, ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est qu'on a des déclarations des États-Unis disant « si la Chine fournit des armes à la Russie, on va prendre », et le sous-entendu, c'est de nouvelles sanctions. En fait, ces sanctions existent déjà. C'est déjà interdit de faire des affaires avec le secteur militaire russe. Et c'était pour cela qu'on avait eu la saga, par exemple, avec la Turquie qui avait acheté des S-400, des missiles de défense anti-aérienne à la Russie. Et il y avait eu déjà toutes ces discussions, puisque, bon, par ailleurs, la Turquie est membre de l'OTAN. Mais théoriquement, les États-Unis pouvaient imposer des sanctions contre la Turquie à cause de cela. Donc, le cadre juridique est déjà là. La question est de savoir, pour moi, en fait, la question est double. La première, c'est est-ce que les États-Unis iraient plus loin? Alors, imposer des sanctions plus fortes contre la Chine, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça serait des sanctions contre des entreprises chinoises? Ça, c'est une chose. Ou est-ce que ça serait des sanctions contre l'État chinois? Ça me paraît assez improbable, puisque de telles sanctions auraient des effets économiques, des effets secondaires, exactement comme je l'explique dans mon livre, massifs sur l'économie mondiale. Donc ça me paraît peu probable. Donc peut-être plus de sanctions contre des entités chinoises impliquées dans ce commerce, mais là, à ce moment-là, à nouveau, ça existe déjà. Et après, la deuxième question, c'est quelle coalition est-ce que les États-Unis vont réussir à réunir, puisque l'Union européenne, en fait, n'est pas toujours convaincue par les efforts américains pour contrer les avancées économiques de la Chine. Je crois que l'Union européenne a une position un petit peu compliqué. La Chine est son premier partenaire commercial. En même temps, les États-Unis sont son principal partenaire diplomatique. Donc, c'est très compliqué, en fait, du point de vue européen. Et il n'est pas certain que les Européens vont totalement vouloir suivre les États-Unis. Et en fait, c'est déjà le cas sur la question de la Chine avec les réglementations, les contrôles à l'exportation sur les semi-conducteurs, en fait, vers la Chine. Puisque les États-Unis ont imposé des restrictions sur l'importation par la Chine de semi-conducteurs avancés. Ça, c'était à l'automne 2022. Et les États-Unis aimeraient que l'Union européenne rejoigne leurs efforts, mais pour l'instant, l'Union européenne dit « Attendez, vous êtes en train de nous faire un remake des sanctions secondaires, là. » C'est-à-dire que vous allez dire à toutes nos entreprises qu'elles n'ont plus le droit de faire des affaires avec la Chine et qu'elles doivent respecter ces contrôles à l'exportation, et l'Union européenne n'est pas tout à fait convaincue. Donc voilà, pour moi, les deux questions, plus de sanctions que celles qui existent déjà, et quelle coalition pour ces sanctions, donc beaucoup d'inconnus.
Est-ce que je comprends de votre analyse, Agathe, que la Chine n'aurait pas de coût important à supporter si elle décidait de soutenir militairement la Russie?
C'est possible, parce qu'en fait, les options occidentales contre la Chine sont limitées. Pour moi, on est quasiment au maximum, en fait, pour ce qui concerne les sanctions, les contrôles à l'exportation contre la Chine. Si on réfléchit, du point de vue économique et financier, pour ce qui concerne les sanctions commerciales, alors c'est pas vraiment des sanctions, et j'aime pas trop faire l'amalgame, mais pour ce qui concerne les tarifs douaniers, les États-Unis sont quasiment déjà au maximum. Donc c'est pas vraiment une option. Par ailleurs, on sait que ces tarifs douaniers ont un impact sur l'inflation, et actuellement, l'inflation étant très élevée, c'est un petit peu compliqué d'expliquer aux électeurs américains que l'inflation va encore augmenter parce qu'on prend des tarifs douaniers contre la Chine. Du point de vue économique, en fait, des sanctions traditionnelles, je dirais que l'arsenal juridique américain permet déjà de prendre des sanctions contre la Chine, donc par exemple, comme on vient d'en discuter, sur le secteur, enfin, les entreprises chinoises qui feraient des affaires avec le secteur militaire russe. plus de sanctions contre des entreprises chinoises. Oui, mais sur quelle base légale, dans quel cadre et pour quelles conséquences mondiales, puisque la Chine est la première puissance manufacturière du monde. Donc là aussi, les États-Unis, en fait, ont un problème, parce qu'imposer des sanctions contre Cuba ou la Corée du Nord, ou même l'Iran, qui sont des petites économies, c'est une chose. On voit qu'imposer des sanctions contre la Russie, c'est déjà quand même beaucoup plus significatif, parce que c'est un producteur de matières premières majeures, c'est la 9e économie mondiale. La Chine, on est sur la 2e économie mondiale. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'entièrement différent. Et enfin, la troisième option, c'est le domaine technologique, mais les États-Unis imposent déjà des restrictions à l'exportation sur les semi-conducteurs les plus avancés vers la Chine. Alors après, ces restrictions à l'exportation pourraient toucher d'autres technologies, comme celles liées à l'intelligence artificielle, la médecine, l'ordinateur, l'informatique quantique. C'est possible, mais ça ne serait pas vraiment des surprises. C'est un petit peu la direction of travel, si je peux me permettre de parler en anglais. Et donc, peut-être que les États-Unis pourraient dire que c'est lié à un soutien chinois à la Russie, mais réellement, c'est plutôt vers ça qu'on s'achemine de toute façon. Et effectivement, comme vous le dites, les options américaines contre la Chine sont limitées à cause de la taille de l'économie chinoise, d'une part, donc effet secondaire global massif, et également à cause du mouvement de résistance aux sanctions dont on a discuté tout à l'heure, la Chine développe tout son arsenal pour essayer de se vacciner contre ces sanctions.
Ouais, une chose que j'ai beaucoup de mal à saisir, mais je ne suis pas économiste comme vous, c'est le poids ou la proportion des difficultés économiques que nous connaissons actuellement. Donc, vous avez mentionné l'inflation, mais il y a un ralentissement économique assez évident, il y a des tensions commerciales importantes. Dans quelle mesure est-ce que toutes ces difficultés que nous vivons actuellement sont liées au régime de sanctions, selon votre analyse?
Alors, je crois qu'elles ne le sont pas. Je crois qu'elles sont liées à la guerre en Ukraine. Et je crois que, mais c'est plus particulièrement le cas en Europe, je le ressens beaucoup moins lorsque je donne des interviews, que je discute avec des contacts en Amérique du Nord. En Europe, on a une propagande russe très forte qui vise à dire que l'inflation, les difficultés économiques, enfin tous les problèmes possibles et imaginables, sont liés aux sanctions. Pour moi, c'est une inversion de la cause et de la conséquence. En fait, si on regarde les prix de l'énergie qui ont effectivement beaucoup augmenté, surtout l'an dernier, d'une part, ils avaient déjà commencé à augmenter avant le début de la guerre en Ukraine, et d'autre part, c'est la guerre en Ukraine qui a alimenté les prix de l'énergie, en fait. Donc, c'est pas les sanctions. Et en fait, si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on regarde les choses d'un point de vue purement européen, en 2022 jusqu'au 5 décembre, il n'y avait aucune sanction interdisant l'importation de pétrole russe en Europe. Et il n'y a même, à ce jour, aucune sanction en Europe interdisant l'importation de gaz russe. C'est Vladimir Poutine qui a coupé le robinet du gaz. Donc après, on a l'argument qui tend à dire « Oui, mais si les pays occidentaux n'avaient pas imposé des sanctions, alors Vladimir Poutine n'aurait pas coupé le robinet du gaz ». Alors, peut-être, là, honnêtement, on n'en sait rien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les promesses de Vladimir Poutine n'engagent que ceux qui les croient. Il avait aussi dit qu'il n'allait pas envahir l'Ukraine. Donc, je crois que, pour moi, le point de départ de cette hausse des cours des matières premières et de ses difficultés économiques, c'est bien la guerre en Ukraine, qui, effectivement, a eu des conséquences, mais c'est pas les sanctions, et je crois que c'est important là-dessus de ne pas inverser la cause et la conséquence.
Encore une fois, vous m'avez convaincu. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que tout le monde soit convaincu par cette lecture, et notamment dans le sud global. Donc, depuis le début de la guerre, on a vu les conséquences économiques de la guerre, donc je vous suis, de la guerre sur le sud global. Donc, par exemple, le blocus sur l'exportation de céréales, la diminution de la production tout simplement dans un pays en guerre, des fertilisants également. Ça a eu un impact majeur sur le prix des denrées alimentaires qui s'est envolé dans beaucoup de pays. On en parle souvent en Occident, mais c'est souvent plus grave dans les pays pauvres. Le prix de l'énergie a augmenté aussi de manière spectaculaire dans ces mêmes pays. Donc, leur population, d'une certaine manière, sont des victimes collatérales. Et on a l'impression que le discours selon lequel la cause serait justement cette riposte occidentale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie semble assez populaire. Et peut-être que ça explique en partie le manque de soutien de ces pays au régime de sanctions, non?
Oui, absolument. Ce discours est très populaire et en fait, ce discours est véhiculé par des campagnes de désinformation et de propagande russe, alors par exemple dans les pays africains. Et c'est vraiment des campagnes massives, organisées, financées, avec des relais sur place, voire des médias qui peuvent être créés de toutes pièces, pour véhiculer les idées du Kremlin qui disent par exemple que les sanctions sont responsables de l'insécurité alimentaire, Alors, ce n'est pas vrai, le blocus, en fait, ce qui empêchait l'exportation par l'Ukraine de ces céréales, c'était le blocus fait par les navires russes des ports de la mer Noire. Donc, c'était vraiment aberrant de dire que c'était la faute des sanctions. Mais c'est un narratif qui marche bien et en fait qui traduit plusieurs choses. Il traduit un fort ressentiment à l'égard des puissances coloniales, des anciennes puissances coloniales, dans les pays africains, par exemple. Et la Russie se présente, ce qui est totalement aberrant, comme une puissance anticoloniale qui vient quelque part sauver les pays en voie de développement des pays occidentaux. C'est exactement le narratif russe. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nouveau. En fait, les sanctions sont juste une brique de plus dans les outils utilisés par la Russie pour avancer ses campagnes de désinformation. Durant la pandémie de coronavirus, par exemple, la Russie faisait aussi des campagnes dans les pays en voie de développement pour dire que les pays occidentaux gardaient tous les vaccins pour eux et pour justement à nouveau alimenter ce ressentiment contre les pays occidentaux dans les pays en voie de développement. Donc ça, c'est une première chose, je dirais. Et la deuxième chose, c'est que faire, en fait, puisqu'on a des campagnes russes très agressives dans les pays du Sud. Et effectivement, on voit que le narratif visant à dire « c'est la faute des pays occidentaux, c'est la faute des sanctions pour toutes les difficultés possibles », ce narratif marche très bien. Alors que, en fait, c'est la guerre qui est la cause des difficultés économiques. C'est la guerre qui a créé des tensions sur les marchés de l'énergie. C'est la guerre qui alimente le cours des matières premières alimentaires, etc. etc. C'est bien la guerre. Mais que faire pour lutter contre tout cela? Je crois que d'abord, il y a un problème de prise de conscience de l'ampleur du problème. Alors moi, je fais quelque chose qui paraît qu'il ne faut pas faire. Je suis sur les réseaux sociaux et je lis les commentaires à un certain nombre de choses que je dis sur les sanctions. Je lis tous les commentaires et le ressentiment à l'égard des pays occidentaux est très, très fort. Mais je crois qu'il n'est pas encore pris en compte suffisamment en Europe, aux États-Unis, au Canada. Je ne vois pas vraiment de prise en compte à l'échelle des gouvernements de ce ressentiment. Mais c'est important parce qu'en fait, on voit que la guerre en Ukraine accélère la fragmentation du paysage géopolitique mondial. On a un bloc occidental qui est quand même très clairement défini. On a un bloc mené par la Chine et son vassal, en fait, c'est un vassal, la Russie. Et on a un troisième bloc de pays émergents non encore alignés. Et ça va être très important, si on peut, de les avoir du côté du bloc occidental. Mais ce sera très, très difficile si on ne lutte pas contre ces opérations de désinformation et de propagande russe.
Fascinating. And it's interesting that you bring up this question of the narrative, because of course, if it is the war that is the cause of the economic crisis in the global south, then the antidote is to end the war. But what's interesting about this moment is that many Western leaders, the Secretary General of NATO, do not want to talk about negotiation and peace. China has put on the table parameters for peace, speaking to that desire, which we hear over and over again in the global south, we'd like to see an end to the war. So it kind of comes full circle.
Je crois que ce qui est inacceptable du point de vue ukrainien dans le narratif qu'il faudrait des négociations de paix, c'est que généralement, ce narratif s'accompagne de l'idée que l'Ukraine doit faire des concessions pour arrêter la guerre, alors que l'Ukraine est agressée et que c'est la Russie l'agresseur. Donc l'Ukraine, légitimement, dit qu'elle veut tout simplement revenir aux frontières de 2014, c'est-à-dire récupérer la Crimée, récupérer le Donbass, récupérer les territoires qui ont été annexés et qui sont illégalement occupés par la Russie. Et en fait, si on regarde bien les propositions chinoises, sont quand même des propositions qui sont assez sympathiques vis-à-vis des positions russes, donc ce n'est pas une vraie proposition. Et je crois que, du point de vue ukrainien, c'est tout simplement inacceptable. C'est-à-dire que si on envahit votre maison, vous n'avez pas vraiment envie de faire des concessions, vous avez envie de récupérer votre maison.
Alors, pour ma part, je retiens deux messages de notre conversation que j'ai trouvées passionnantes, Agathe Demaret. La première, c'est que les sanctions, sur le plan technique, mais aussi la politique des sanctions, c'est un sujet de plus en plus sophistiqué, dont la sophistication s'est accélérée avec la guerre en Ukraine, mais il y a aussi une histoire que vous nous avez rappelée, et ces sanctions sont de plus en plus entremêlées avec la politique internationale. Et en même temps, c'est le deuxième message, c'est qu'il ne faut pas tout attribuer aux sanctions, il faut être capable d'identifier quel est l'impact concret des sanctions par rapport aux autres dynamiques de ce conflit et de l'économie mondiale et des relations internationales. Donc, merci infiniment. Ceci conclut le troisième épisode de Tour de table consacré à l'Ukraine. Merci à vous, Agathe Demaret, et à notre réalisateur Karim Farage. Pour en apprendre davantage sur l'Université de Montréal, le département de sciences politiques ou notre centre d'études et de recherche internationale, le CERIUM, vous pouvez me suivre sur Twitter. Agathe, moi, je ne lis pas les réponses à mes propres commentaires, donc je suis psychologiquement très, très sain pour cette raison. Mais vous pouvez me lire sur Twitter ou sous Mastodon. J'aime bien partager les activités et les analyses de mes collègues.
And to learn more about McGill University's Center for International Peace and Security Studies, please visit us at sepsi-sips.ca. Follow us on Twitter at sips_McGill. Subscribe for more episodes of Tour de Table, available on our website, the website of the Max Bell School, Spotify, and Apple Music. We hope you enjoyed listening.